À 28 ans, Mathieu de Clercq devient prêtre pour le diocèse de Lille après des études en lettres modernes. Mais c'est bien avant, lors d'une veillée d'adoration du Saint-Sacrement, qu'il dira oui à ce chemin, une vocation à laquelle il pense dès l'adolescence.
RCF Nord de France, Madeleine Vatel.
Père Mathieu de Clercq, bonjour. Quel est aujourd'hui l'élan qui vous porte véritablement ?
La joie, c'est de voir que les chrétiens sont pour la plupart demandeurs. Et donc, il faut que nous répondions au maximum à leurs demandes spirituelles avant toute chose. Et après, c'est aussi de pouvoir les guider afin de les mener sur les chemins de la sainteté pour qu'ensuite, eux-mêmes puissent à leur tour porter du fruit et évangéliser. Un chrétien seul étant un chrétien en danger, un pasteur n'existe pas s'il n'a pas de paroissiens ou s'il n'a pas de fidèles avec lesquels il doit vivre. Donc vraiment, il y a une collaboration très importante qui doit exister entre les fidèles et leurs pasteurs et qui doit les amener à porter l'évangile du Christ au monde entier et non pas un entre-soi ecclésial.
Vous dites aujourd'hui que vous êtes attendu. Qu'est-ce qu'un prêtre a encore à nous dire aujourd'hui ?
Je pense que l'évangile est toujours une nouveauté. Le message de l'évangile est intemporel. Le Seigneur nous parle chaque jour au travers de sa parole. Il nous nourrit chaque jour de sa parole et de son Eucharistie. Le prêtre, de nos jours, doit porter cette parole à temps et à contre-temps, surtout quand on voit les nombreuses attaques, qu'elles soient médiatiques ou sociétales, les débats actuels, que ce soit sur toutes les lois de bioéthique et tout ça, le montrent très bien. Que nous avons un message qui est celui du Christ à faire entendre encore de nos jours, et il ne faut surtout pas penser que ce message est connu. De nos jours, beaucoup de chrétiens connaissent encore les bases de ce message, mais le monde extérieur, lui, ne le connaît plus. La foi chrétienne n'est plus une évidence dans notre monde. Et donc, il faut que nous fassions entendre notre voix et nous fassions entendre l'évangile du Christ.
Et pour vous, qu'est-ce qui n'est pas su et qui est fondamental ?
Le message de base, que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour chacun de nous, et que par sa mort et sa résurrection, il nous ouvre le chemin du ciel.
Il nous sauve, ça veut dire quoi pour un citoyen ? Jésus nous sauve.
Alors, quand on pense Jésus nous sauve, il faut bien sûr aussi avoir la conception du péché. Jésus nous sauve à la fois du péché originel que nous avons contracté par la désobéissance de nos premiers parents Adam et Ève, mais aussi de nos péchés personnels. Il nous sauve aussi, peut-être, on peut aller au plus large que ça, de toute ambiance de mort qui nous entoure, de tout ce qui en nous pousse à faire le mal. Et la venue du Christ est vraiment une venue salutaire et une présence d'amour. Le Christ est là pour nous révéler l'amour du Père. Dieu le Père, nul visage ne l'a contemplé, nuls yeux ne l'ont vu, mais Jésus, lui, s'est incarné pour nous montrer l'amour du Père. Et c'est cela le message que nous avons à porter et qui est le résumé de tout l'Évangile. C'est l'amour de Dieu le Père et l'amour de son prochain.
Et aujourd'hui, à un moment où on parle beaucoup de liberté, est-ce que vous diriez que justement, cette liberté-là, elle est autre, et que c'est celle-ci aussi qui n'est peut-être pas connue, la liberté que nous donne le Christ et que nous donne l'Évangile ?
Je pense qu'on a bien souvent une mauvaise idée de ce qu'est la liberté. La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce que l'on veut. La liberté, c'est d'agir surtout selon sa conscience. La conscience, elle doit être éclairée. Pour nous, chrétiens, la conscience, elle s'éclaire par la prière et par notre relation à Dieu. Et donc, agir en pleine liberté, c'est agir en conformité avec notre conscience. Quand pendant le confinement, on nous a privés de liberté, etc., il peut s'agir en effet d'une liberté physique, on pouvait moins sortir, mais notre liberté de conscience était toujours là. Mais cette liberté de conscience, il faut que nous l'appliquions et il faut que nous la travaillions. Il faut pour cela que nous la nourrissions, que ce soit par le catéchisme de l'Église, par la lecture méditée de la Sainte Écriture, par les décrets de l'Église que sont le magistère, etc. Et vraiment, notre liberté, c'est l'agissement selon notre conscience. La conscience qui doit être éclairée.
Abbé Mathieu, comment est-ce que vous envisagez votre vie en paroisse, celle qui vous attend ? Comment est-ce que vous l'imaginez ? Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire et d'y impulser ?
Je ne sais pas vraiment, je pense que surtout notre ministère dépend de la demande. Je ne suis pas un homme assidu des réunions, je suis par contre un homme très assidu à la présence à chacun. Donc je pense que notre place est avant tout selon les trois devoirs du prêtre qui sont la sanctification, le gouvernement et l'enseignement. Donc sanctification, gouvernement et enseignement. La première mission du prêtre, c'est la sanctification. Nous devons prier. Et donc cela passe bien sûr par la célébration de la Sainte Eucharistie tous les jours, et cela passe par l'office divin, donc la liturgie des heures, dont nous devons nous acquitter et dont nous faisons la promesse à l'ordination diaconale. Cela passe par l'enseignement. L'enseignement, donc, qui se fait aussi bien au travers des homélies que nous pouvons prononcer à toute occasion, que ce soit les funérailles, baptême, mariage, eucharistie, toutes les célébrations, quelles qu'elles soient, et aussi l'enseignement au travers d'une rencontre d'un groupe, quel qu'il soit, dans lequel nous sommes demandés. Et enfin, le gouvernement, c'est-à-dire la mission qui nous est donnée de guider le peuple de Dieu qui nous est confié. Donc là, moi, je serai vicaire, donc je n'ai pas la charge d'âme de la paroisse où je suis. Je ne suis là que pour assister le curé, l'aider dans sa mission de curé et suppléer à toutes les demandes qu'il a à me faire. Mais je suis en même temps aumônier des scouts et guides de France de Marc-en-Barœul. Là, j'ai pleine charge d'âme de mes chefs et chefs ten scouts et de tous les scouts, guides, Louveteau, Jeannette, Pionnier, Caravelle, Compagnon, Farfadet, qui y sont.
À quoi vous souhaitez être particulièrement attentif comme prêtre ?
Le point d'attention, le principal, c'est la détresse des gens. La détresse ne se lit pas forcément dans les paroles, elle se lit énormément dans les regards. Il ne faut jamais oublier que les yeux sont le miroir de notre âme. Et donc un regard de détresse est un regard qui dit beaucoup de choses. Des personnes se sont déjà confiées à moi sur des situations très très douloureuses qu'elles ont vécues. Souvent cela se fait plutôt dans un caractère un peu plus intime, à la sortie d'une messe ou sur un trottoir. Le simple fait d'être visible par le port de l'habit ecclésiastique fait que l'on rencontre énormément de personnes. C'est une chose toute bête, mais je me balade parfois en campagne et par le simple fait d'avoir l'habit ecclésiastique, une dame s'est ouverte à moi, elle promenait son chien et elle s'est ouverte à moi pour me confier la souffrance qu'elle avait eue de perdre sa petite fille, etc. Ce sont des relations qui sont spontanées, on ne s'y attend pas et il faut être toujours prêt à réagir. Et cette détresse humaine à laquelle nous devons réagir, elle peut se vivre aussi bien à travers des mouvements associatifs qui viennent en secours aux détresses aussi bien physiques que spirituelles. Mais le pasteur ne doit pas oublier qu'il est là aussi, lui, pour donner le message d'amour du Père. Et ce message d'amour, c'est aussi rappeler aux gens qu'ils sont aimés au-delà de toute détresse humaine. À quoi être attentif sinon ? C'est aussi être attentif à soi-même. Je pense qu'il faut se connaître. Nous avons besoin de temps de silence, de repos, de méditation pour rester centré sur ce que le Seigneur veut de nous. Donc ce qui demande pour nous une conversion permanente. Toujours nous remettre en question, pouvoir se convertir sans cesse. Et en cela, j'ai la chance d'avoir une spiritualité qui est très enracinée dans la spiritualité bénédictine et qui me porte depuis quelque temps déjà.
Alors ça se traduit par quoi pour vous ?
J'ai une très grande proximité avec deux abbayes bénédictines et puis donc je lis très régulièrement, quotidiennement, la règle de Saint-Benoît et je suis très attaché à la célébration de l'office divin, donc la liturgie des heures, les offices quotidiens que nous devons dire depuis l'ordination diaconale.
Vous diriez aujourd'hui qu'il faut faire preuve d'audace pour être prêtre. Comment est-ce que vous percevez un peu cet engagement, vous, personnellement ?
L'audace, je pense qu'il faut en avoir avant tout pour être prêtre, pour être chrétien. Je pense qu'un chrétien a besoin d'être audacieux puisque le monde qui nous entoure ne l'est plus. Le monde qui nous entoure n'étant plus chrétien, le chrétien porte un message qui n'est pas forcément suivi par le monde actuel et donc il doit faire preuve de courage. Les pasteurs, donc, puisqu'ils sont là pour vivre avec le peuple de Dieu et le guider, doivent faire preuve d'encore plus d'audace. Pour cela, nous avons la chance d'être soutenus. Enfin, plusieurs prêtres ont la chance de travailler en équipe. On voit très bien plusieurs initiatives sur le diocèse, que ce soit nos confrères de la communauté de l'Emmanuel ou même les prêtres à l'échelle d'un doyenné, qui portent parfois des missions communes. Cette audace, nous pouvons la vivre aussi avec les paroissiens, et c'est encore mieux lorsque des paroissiens nous demandent de monter un groupe spirituel ou un groupe, je pense au groupe d'évangélisation. Voilà, ce sont des mouvements d'audace qu'il nous faut avoir, puisque, encore une fois, l'évangile n'est plus connu dans ce monde. Et donc, si on souhaite que les gens connaissent aussi cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, on ne peut pas se contenter de vivre un entre-soi. Il y a vraiment une audace qui nous pousse à proclamer cet évangile à temps et à contre-temps et à le dire aussi bien de manière vocale, orale, oser interpeller les gens par l'évangile, mais aussi par notre comportement. Notre exemplarité doit être telle que les gens nous voient et se disent « cet homme ou cette dame est un chrétien ». A fortiori, cet homme est un homme de Dieu.
C'est très exigeant.
Oui, c'est exigeant.
Vous avez eu 6 ans de formation au séminaire. Quel regard vous portez sur ces 6 années ? Est-ce que ça a répondu à toutes vos questions ? Est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez approfondir ?
Alors, j'ai eu la chance de faire mes 6 ans de formation dans 2 lieux différents. Donc, j'ai commencé par 3 années au séminaire de Lille. Et ensuite, j'ai passé 2 années de stage paroissial à M. Et je suis parti ensuite terminer mon séminaire à Issy-les-Moulineaux. La formation, somme toute, est bonne, moi je ne cesse de dire que le séminaire est le séminaire que nous nous faisons. C'est-à-dire que nous avons des cours, nous avons des bibliographies de livres, de références, mais mon séminaire a été ce que j'ai bien voulu en faire. Je ne cesse de donner ce conseil d'ailleurs aux séminaristes qui me suivent, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « oui, on ne travaille pas assez, on n'a pas assez de devoirs et tout ça ». J'ai dit « rien ne t'empêche de le faire par toi-même ». Ton séminaire, c'est ce que tu en fais. On peut très vite tomber, comme dans toute vie, comme dans le ministère, dans une routine qui est de toujours faire la même chose et sans au final se poser de questions jusqu'au jour où il y a la grande question existentielle, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et puis là, il y a le craquage. Voilà, ni plus ni moins. J'ai aussi pu remarquer que certains prêtres ont quitté le ministère rapidement après le séminaire ou après leur ordination. Je pense que, en effet, le ministère est quelque chose d'exigeant. Ils ne se sont peut-être pas sentis soutenus ou accompagnés. Il nous est impossible de rester seuls. Le ministère sacerdotal aujourd'hui doit être vécu en pleine communion et il n'est pas toujours évident de trouver une oreille attentive à nos demandes. Mais il y a des questions et des sujets à approfondir dans ce domaine, que ce soit au niveau de la formation pastorale. On nous dit souvent, vous avez d'un côté la théorie, d'un autre côté la pratique. Ce qui est faux. Il faut vraiment que la théorie, donc la théologie, s'articule avec la pleine pratique pastorale et que l'on puisse voir que l'un et l'autre s'éclairent et non pas continuer à faire un clivage entre les deux. Ce qui fait qu'en fait, on perd un petit peu l'esprit des gens. Il y a dans l'Église, pour cela, pour nous aider, nous avons des documents magistériels, des documents officiels de l'Église, entre le catéchisme, le code de droit canon, les divers directoires, les livres, les rituels, tout cela sont des documents qui nous sont fournis de manière officielle et qui nous donnent ainsi un cadre dans lequel nous pouvons évoluer. Il ne faut pas y voir toujours des normes, mais bien un cadre dans lequel nous pouvons évoluer, tout en conservant ce qui est notre spécificité catholique, c'est-à-dire ce qui a été voulu par Dieu et pour son Église, et qui a été discerné par nos pères, c'est-à-dire par ceux qui nous ont précédés, que soient les conciles, le magistère, les papes successifs.
Vous avez approfondi en fait ce que signifiait votre vocation, comment faire sa vie avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ça aussi qu'on attend des prêtres, de savoir accompagner la vocation des autres, la vocation des paroissiens? Et est-ce que les chrétiens se posent bien encore la question de leur vocation?
Je pense que la question de la vocation, les chrétiens se la posent encore, peut-être pas de manière directe, mais il faut pour nous qu'on les aide à discerner quelle est leur réelle place dans l'Église et qu'est-ce qu'ils ont à y réaliser pour leur propre croissance spirituelle. Et vraiment, j'en suis convaincu. Il y a parfois des fidèles qui s'accrochent à une fonction qu'ils ont dans une paroisse ou qu'on leur a confiée à une époque et qui s'y accrochent pendant des années, des années, des années, sans vouloir, non pas se remettre en question, mais sans vouloir lâcher, se disant que derrière eux, il n'y aura plus personne. C'est là au pasteur de dire, écoutez, vu vos compétences, vu vos charismes, je pense que vous seriez plus épanoui, plus à l'aise dans cet autre domaine. Et là, le pasteur a un véritable discernement à faire au sein de sa paroisse. Bien souvent, les gens viennent et disent, ben voilà, moi je me propose pour faire le catéchisme. Très bien. Sauf que si cette personne ne supporte pas les enfants, ça va vite tourner à la catastrophe. Et on a beau en rire, ce sont des choses qui arrivent. L'exemple du catéchisme est un exemple anodin, hein, ça pourrait très bien être un autre sujet. De même, à l'accueil paroissial, vous n'allez pas mettre quelqu'un qui est complètement lunatique ou bien qui répond au téléphone sèchement. Enfin, ce sera extrêmement contre-productif. Donc il faut vraiment que les pasteurs veillent aussi à ce que chaque chrétien trouve sa place à la fois dans la paroisse. Pour cela, ce chrétien doit avoir trouvé avant tout sa place dans la société et dans le monde, donc avoir trouvé quelle est sa vocation propre, si c'est la vocation au mariage, si c'est la vocation au célibat, qu'il soit consacré ou non. Donc la vocation d'abord dans la société, ensuite la vocation dans l'Église, et pour cela, il est bon que le pasteur, de toute façon le prêtre le voit bien, le prêtre voit les fidèles qui s'investissent, et qu'il voit si il est à l'aise et s'il s'épanouit pleinement dans sa mission. Je pense que le diocèse a lancé depuis quelques mois maintenant que les acteurs de la pastorale dans le diocèse, donc que ce soit les animateurs en pastorale ou les personnes investies dans des mouvements, fassent un point annuel avec soit leur curé, soit leur doyen. Par exemple, leur curé pour les paroissiens investis et leur doyen pour les prêtres du doyenné et les acteurs de la pastorale au niveau du doyenné. Et ce qui est une bonne chose, parce que la relecture est un moyen de voir si l'on répond pleinement à sa vocation et si l'on se mais pleinement à agir selon la volonté du Seigneur et non pas selon son propre désir.
Une dernière question, est-ce que vous avez eu le soutien de votre famille dans votre parcours et encore aujourd'hui ?
Oui, ma famille n'était pas opposée à mon choix de vie. Sans être forcément catholique pratiquant, même si ma maman a fait un beau chemin de foi et continue à le vivre, je n'ai jamais eu de frein à ma vocation, bien au contraire. Mes parents m'ont toujours laissé libre de mes choix à ce niveau-là.
Merci Mathieu Declercq, vous étiez en insertion à la paroisse de la Bonne Nouvelle de Marc-en-Barœul. Vous êtes également aumônier des scouts et guide de France et vous êtes désormais prêtre pour le diocèse de Lille. Merci à vous.